Salut, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste. Vous pouvez nous appeler au studio 01 43 71 89 40 pendant les pauses musicales. Et je vais vous présenter tout de suite les invités de ce soir. Donc il y a Florence, qui est institutrice dans le 18e.
Bonsoir.
Didier, qui est instituteur dans le 18e.
Bonsoir aussi.
Et Serge, qui est instituteur dans le 10e.
Bonsoir, on est bien à l'émission aussi de la CNT et de l'éducation RP.
Non ? Et donc c'est bien Radio Libertaria. Tu ne t'es pas trompé d'adresse. Vous écoutez Radio Libertaria et comme vous avez pu constater, c'est l'éducation ce soir, comme tous les deuxièmes mardis du mois, la CNT Éducation en région parisienne. Et à la technique, comme c'est l'anniversaire de Greg, joyeux anniversaire Greg.
Bon anniversaire.
Bon anniversaire Greg.
À la technique, il y a un remplaçant, c'est Salah.
Bonsoir.
Qui est de la CNT Santé Sociale et qu'on est ravis d'avoir comme technicien. Et pour vous présenter tout ça, c'est Pascal, comme depuis un peu plus d'un an. Et on va commencer, aujourd'hui on va parler des problèmes de hiérarchie, d'évaluation, de compétences, de savoir et de choses comme ça. Alors c'est pas la première fois qu'on en parle, mais on va s'appuyer sur les récents débats qu'il y a eu dans le milieu enseignant plus ou moins anti-hiérarchique, en l'occurrence à l'occasion d'un stage qu'on a fait au début du mois. J'ai des toutes petites infos et peut-être que mes invités compléteront avec d'autres infos. La première info, c'est que samedi soir au Vignol, donc 33 rue des Vignoles, au siège de la CNT, métro Avron ou Buzinval, il y a une journée contre la répression organisée par le collectif anti-répression de Nanterre, en particulier autour de la répression sauvage qu'ont subi les lycéens à Nanterre pendant le mouvement des retraites. Donc c'est une soirée pour laquelle il y aura un débat sur les droits, une conférence débat disons sur les droits en garde à vue avec un avocat et avec Mathieu Rigouste, l'auteur de L'ennemi intérieur. Et ensuite il y aura pas mal de petits concerts et donc on vous invite à venir nombreux et nombreuses et tous les bénéfices, parce que le but c'est de faire du bénéfice comme vous pouvez bien le savoir, seront reversés intégralement au collectif anti-répression de Nanterre. J'ai pas d'autres informations de court terme et donc on va pouvoir commencer tout de suite. Donc je vous rappelle que si vous voulez nous appeler, c'est pendant les pauses musicales qui vont arriver régulièrement pendant l'émission au 01 43 71 89 40. Alors pour parler un petit peu de la problématique qui se pose en ce moment, en particulier dans l'éducation, mais plus généralement un peu dans tout le milieu professionnel. On va peut-être pouvoir commencer à parler de ce qui a commencé dans l'éducation autour de l'anti-inspection, autour des luttes contre la hiérarchie. Déjà, qui pourrait nous raconter un peu l'histoire de ces luttes anti-hiérarchiques assez rapidement pour voir sur quoi on s'appuie. Oui, c'était prévu dans l'ordre du jour, mais je vois que personne n'a travaillé. Ah, Serge.
Serge.
Raconte-moi un peu cette histoire pour voir un peu sur quoi on s'appuie aujourd'hui quand on commence ce genre de lutte.
Alors, on s'appuie. Le collectif anti-hiérarchie a été recréé, je dis bien recréé, en 2002 à peu près. En 2003, plus réellement, mais en 2002 a eu lieu la première réunion sur une heure d'info syndicale qui se traduit chez les instituts par des réunions d'information syndicale qui étaient sur le temps de travail qui le reste, mais qui sont un peu décalées, un samedi matin. Mais auparavant, en fait, ça a été par la volonté de plusieurs d'entre nous qui refusaient l'inspection depuis quelques années sur la base de ce qui s'était fait déjà dans les années 70 et même de manière antérieure, si on peut remonter jusqu'à Célestin Freinet, qui l'a contesté et qui a été progressivement exclu. Célestin Freinet, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, donc est un pédagogue qui s'inscrivait dans le courant révolutionnaire et qui est un des créateurs de l'école émancipée, historiquement, et puis de l'école coopérative après. Et donc bref, l'inspection qui a été créée sous Napoléon, c'est pas très nouveau, a évolué au fur et à mesure de volonté politique en haut, mais en tout cas restait assez archaïque, et le reste toujours d'ailleurs. Et donc en 2002, en fait, on a repris ce qui s'était fait autour des collectifs anti-inspection, qui avaient quand même gagné au cours des années 70, lorsqu'ils se sont doucement formés jusqu'à la fin des années 70, lorsqu'ils ont existé, après quand même beaucoup de répression, des enseignants exclus et des...
Donc ça allait à la radiation à l'époque
Jusqu'à la radiation, des diminutions de salaire fortes ou des exclusions temporaires. Et jusqu'à la fin des années 70, il y en a eu quelques cas, pas mal de cas même au départ, et puis de moins en moins. Et à la fin des années 70, en fait, ça a quasiment disparu, jusqu'à arriver en 83 avec Alain Savary, qui l'a complètement intégré, puisqu'il y a une décision du Conseil d'État a permis aux refuseux, on les appelle comme ça, ceux-là, ceux qui refusent, aux refuseux, donc à ceux qui refusent d'être inspectés, c'est-à-dire de subir une vérification de leur travail complètement aléatoire et très peu fréquente finalement, hein, puisque la moyenne est de l'ordre d'une fois tous les 6-7 ans. Et donc, les gens qui ont commencé à refuser pouvaient le faire légalement, même si c'était pas encore porté au nu et que ça reste quand même relativement discrétionnaire en nombre. Au cours des années 80, ça a continué à monter. Il y a eu de plus en plus de monde qui refusait, sur des bases pédagogiques et sur des bases syndicales aussi, simplement parfois pour faire chier le chef direct. Et puis est arrivée la fin des années 80 où il y a eu un certain nombre quand même de bouleversements politiques. Vous savez, un mur est tombé, tout ça. Et d'autres, il y a eu aussi beaucoup de bouleversements au niveau syndical en France. Or, les gens qui portaient dans l'éducation ce type de choses, donc c'était l'ICEM, Institut coopératif de l'école moderne, donc les frénétistes, Célestin Frénet, les camarades du SGEN, et des camarades de l'école émancipée.
Donc le SGEN, qui est SGEN, le CFDT, centre d'éducation de la CFDT.
Qui antérieure à 95, et majoritairement, ces gens sont passés à Sud après 95. Après 95, après exclusion pour certains, ou départ volontaire pour d'autres, en créant les Sud éducation. Bref, en 2002, beaucoup d'entre nous qui sortions soit de la CNT éducation comme moi ou d'autres, soit de Sud éducation, on a décidé de relancer le collectif anti-hiérarchie pour la simple raison, c'est que toute pratique qui n'est pas entretenue et qui n'est pas toute pratique non utilisée disparaît, et donc la possibilité, on avait rarement vu dans un boulot la possibilité de refuser un chef, or c'est le cas, avec des sanctions financières dans le sens où on progresse qu'à l'ancienneté, mais finalement ça reste relativement faible si on compare à refuser un chef ou lui refaire un bras d'honneur dans un autre boulot. En général, on y reste pas très longtemps quand même.
Oui, là les sanctions, donc l'avancement dans la fonction publique, dans la fonction publique d'État, c'est un système d'échelons.
Ouais.
Et dans l'éducation nationale, on avance plus ou moins vite suivant les notes qu'on a eues.
Exactement.
Aux différentes inspections. Et pour les camarades du secondaire, il y a l'inspection plus la ponctualité, le rayonnement à l'intérieur de l'établissement qui donne une note qu'on appelle administrative. Et les résultats à ces notes permettent d'avancer un petit peu plus vite en échelon quand on a bien léché.
C'est exactement. C'est bien résumé.
Ouais, et du coup, dans le secondaire, en fait, normalement, la note administrative est pas censée être touchée. Ce qui est touché, c'est la note pédagogique, donc donnée par l'inspecteur. Alors que nous, dans le primaire, on a une seule note. Du coup, elle est donc très...
uniquement par l'inspecteur.
Un fourre-tout. Elle est très touchée, du coup. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que c'est plus ou moins, selon, par exemple, moi, j'ai une très mauvaise note. Et il y a des camarades qui ont même la moyenne, quand même, en étant refuseux. Donc voilà,
qui obtiennent un avancement au ce qu'on appelle le grand choix, c'est-à-dire au maximum, c'est-à-dire pour les auditeurs qui comprendraient pas, pour résumer super rapidement, c'est on a tous les 4 ans et demi environ un avancement d'échelon qui nous donne environ 100 euros, 120 euros de plus, et donc si jamais vous êtes un bon élève, que votre chef vous dit c'est bien, ou vos deux chefs, chef d'établissement et inspecteur. Dans ce cas-là, vous pouvez gagner un an et demi. Et donc, si chaque fois que vous êtes inspecté, vous gagnez un an et demi, vous pouvez compter en fin de carrière. Effectivement, ça vous fait quelques années de gagner et beaucoup d'argent gagné en supplément. En refusant l'inspection, évidemment, on se traîne à la fin. Mais bon, les salaires restent corrects pour l'instant, en tout cas.
Voilà.
C'est pas très très grave.
Non, mais du coup, c'est quand même, ça fait plaisir, comme disait Serge. C'est pas si courant de pouvoir envoyer son chef bouler, donc ça fait plaisir. C'est un petit sacrifice financier. On n'est pas super intéressé, donc voilà. Et je pense que ça vaut le coup. Du coup, ils font des têtes.
Alors, avant de passer aux luttes de notre décennie, il y avait aussi une lutte anti-hiérarchie importante au milieu des années 80 contre ce qu'on a appelé les maîtres directeurs.
Ça a été fondateur pour les, mais ça a été aussi la fin du coup des
83, non?
C'est 87 et en 87. Fait en 87 quand il y a le quand cette lutte a lieu, elle est très intéressante parce que elle est située sur un terrain qui est beaucoup moins habituel que ceux de l'éducation où souvent en tant qu'enseignant, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, hein, on se préoccupe beaucoup de ce qu'est l'école elle-même. Donc, ça, on est un des rares milieux à faire, à donner une partie de notre salaire pour améliorer non pas nos conditions de travail, mais les conditions de travail des gamins qui sont devant nous. Et c'était quelque chose qui touchait directement au statut de quelqu'un qui était au centre des écoles, le directeur, et qui est censé jusqu'à présent, et qui l'est toujours, puisque ça a été une grève gagnante, un collègue, et pas un chef. Et donc, mais ça a aussi marqué la fin des collectifs anti-inspection parce que, pour de multiples raisons, bon, c'était une grève gagnante, mais il n'y avait plus vraiment de matière à, donc les gens ont continué à refuser, mais il n'y avait plus de matière et donc beaucoup sont retrouvés aussi à militer sur d'autres terrains. Et puis il y avait la précarité qui montait façon grand V. Les années socialistes les ont aidés. La crise, entre guillemets, du capital aussi, mais bon. Le capitalisme est toujours en crise, donc c'est pas forcément une excuse, mais en tout cas, il y a eu un recentrage plus syndical pour beaucoup, et donc ces luttes qui étaient, qui touchaient moins à un côté économique qu'à un côté plus politique, ont été mises un peu de côté.
Alors aujourd'hui, donc avec la recréation du collectif anti-hiérarchie depuis maintenant 8 ans, on voit apparaître de nouvelles tentatives de répression contre les refuseux. On voit réapparaître le statut des maîtres directeurs, en particulier dans le discours des politiciens, mais aussi dans les tentatives de réforme successives dans l'éducation nationale. Le discours est au renforcement des hiérarchies et aussi à la mise au pas des personnels. Donc aujourd'hui, on se trouve dans ce contexte de lutte là où dans le secondaire, il y a depuis toujours des chefs d'établissement, mais pas dans le primaire, du moins pas dans l'établissement. Les chefs d'établissement sont les inspecteurs qui passent rarement. La mise en place des maîtres directeurs, elle paraît toujours imminente, elle est toujours pas là, mais on est toujours vigilant que ça se passe pas.
Bah ça va se passer puisque avec le projet des EPEP, établissements publics d'enseignement primaire, qui serait effectivement qui est l'idée de faire des écoles, des établissements sur le profil des établissements du second degré. Donc alors maintenant c'est plus EPEP, apparemment c'est E2P, ouais. Établissement public primaire. Sachant que si je ne m'abuse, la loi est passée, mais pas encore les décrets d'application. Mais voilà,
c'était un décret déjà. D'accord. Ouais. Mais ça fait déjà plus quelques temps. Hein.
Oui, oui. C'est sûr que cette idée-là, elle est présente.
Tout est prêt, c'est juste des différences de mode de gestion et ils ont des problèmes structurels à l'État.
Puis ils ont des problèmes avec les inspecteurs aussi, qui sont pas forcément.
C'est lié à l'État. C'est pas lié aux résistances locales.
Ah oui, non, ça, il y a pas eu beaucoup de résistance.
Sauf apparemment les mairies, parce que apparemment, comme l'idée, c'est de regrouper des écoles, ça veut dire faire des énormes structures. Ça veut dire que pour les mairies, ça leur demande un investissement et que, a priori, pour l'instant, les maires traîneraient la patte. Bon, après.
Les inspecteurs ont l'air de pas mal traîner aussi. Ils perdraient quand même une partie de leur pouvoir.
Ah non, mais c'est pas plus que traîner. Comme c'est des hauts fonctionnaires. Enfin, non. C'est le plus bas statut des hauts fonctionnaires, on va dire. Ça, comme ça, c'est-à-dire ceux sur lesquels l'État s'appuie pour gérer son plus grand corps de fonctionnaires, que sont les enseignants, c'est quand même un vrai problème pour eux, je parle des politiques tout en haut, de faire passer ce type de projet pour le moment. Je pense qu'ils vont y arriver, mais il faut qu'ils trouvent une modulation entre le pouvoir de l'inspecteur et le pouvoir de ces nouveaux super directeurs, qui seraient des directeurs patron des instituts dans un regroupement scolaire appelé EPEP.
Alors, dans toutes ces luttes qu'il va falloir mener et qui sont pas forcément évidentes à mener, on a aussi une autre dimension qui prend de plus en plus d'ampleur, c'est la dimension de l'évaluation des élèves. Donc, on vient de parler en fait de l'évaluation des enseignants, qui est pour l'instant refusable et mais qui est toujours une sorte de combat permanent. Il y a encore des tentatives de répression, d'intimidation, des choses comme ça. Non, on ne frappe pas les invités, Serge.
Je touche la chaise pour le réveiller, parce que qui dit évaluation dit Didier.
Voilà.
Sachez-le. chers auditeurs. Alors, problème d'évaluation à votre travail, contactez Didier sur Radio Libertaire 01 43 71 89 40.
Et aujourd'hui, donc, les évaluations, elles sont à tous les niveaux. Donc, l'évaluation des personnels, qui est une lutte en cours, mais on a aussi les évaluations des élèves, des enfants, avec les livrets personnels de compétences, avec les notes qui seront pas supprimées du tout, au contraire, les conseils de classe dans le secondaire, avec les évaluations nationales en CE1, en CM2, en 6e. Donc ça arrête pas. PISA, les évaluations
Peers,
internationales,
Teams.
Alors, on voit même un pervertissement de tout le langage pédagogique, mais au service du capital. Donc on peut essayer déjà de regarder quelles sont ces nouvelles formes d'évaluation, les objectifs de ces nouvelles formes d'évaluation. C'est des pistes qu'on a explorées pendant le stage qu'on a fait, où on était tous les quatre présents au début du mois, organisé par le collectif anti-hiérarchie, avec l'émancipation, etc. Donc, par exemple, on peut partir directement sur le livret de compétences. Je pense que c'est assez caractéristique de l'évaluationnite ambiante. Et qu'est-ce que le gouvernement cherche à travers un livret de compétences, Didier?
Ouais, alors déjà le livret de... alors
je
déjà
pense, Florence, non je ouais. pense qu'il faut quand même revenir un peu en arrière. C'est vrai que c'est mieux de situer c'est vrai qu'il y a des politiques générales qui sont assez cohérentes en Europe. Comment on en est arrivé là, ça se mijote depuis 20 ans. C'est vrai que c'est pas nouveau. Ça correspond à des grandes perspectives communes sur ce que doit être la formation. C'est des choses qui se sont mises en place sur la formation professionnelle en premier, c'est-à-dire ce qui était en contact direct avec les besoins du monde du travail. C'est là que ça s'est passé. Puis après, ça a été très difficile, laborieux, parce que il faut que chaque État européen a son système éducatif qui est très différent d'un pays à l'autre, et c'est ce qu'on verra quand on va parler de système de l'approche par compétences, qui était en vogue très tôt dans certains pays, aux États-Unis, au Canada. Et en France, par exemple, il y a eu une réticence énorme, encore aujourd'hui, de la part de tous les corps hiérarchiques ou pas, enfin d'experts, inspections, autorités, pouvoirs décisionnaires, sont relativement hostiles à pas mal de choses de ce domaine. C'est plus l'idée de pourquoi ces politiques d'évaluation ont proliféré à une telle vitesse, qu'est-ce qu'il y avait derrière, et pourquoi on en revient à l'idée d'anti-hiérarchie, parce qu'à mon avis, cette idée d'évaluation, c'est... Il y a deux choses. Il y a l'idée du pilotage, qui est affirmée par ceux qui mettent en place les dispositifs et qui constituent...
C'est écrit noir sur blanc.
Donc c'est écrit globalement à chaque mise en place d'un dispositif. L'objectif, c'est toujours le pilotage. C'est-à-dire non pas pouvoir rendre compte de l'état d'une pratique, d'individus, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. Mais toujours cette idée de... On peut revenir à Foucault, oui, de la gouvernementalité des individus qui prime avant tout. Après tout, on se fout pas mal de ce qu'ils font. L'important, c'est pas là, mais
ce qu'ils peuvent faire,
ce qui va pouvoir rentrer dans une certaine grille de capture de ce qu'ils font. Et l'autre, à côté du pilotage, qui est affirmé, alors aussi bien pour un enseignant dans sa classe, pour un inspecteur, pour le pilotage d'un établissement, pour les établissements entre eux, enfin à tous les niveaux, on le retrouve. Le deuxième, c'est cette idée de mesure qui s'est progressivement généralisée, imposée dans tous les dispositifs d'évaluation. C'est de dire, si on impose la mesure des résultats, on a deux choses, c'est-à-dire on va pouvoir ce que fait toujours l'école, c'est-à-dire transformer tous ceux qui sont dedans en individus homogènes, en élèves qui sont réduits à des plus petits dénominateurs communs qui permettent de les rendre comparables et mis sur une même échelle de valeur. Donc c'est plus un instrument de mesure, mais c'est un instrument de contrainte, d'homogénéisation, de réduction de tout ce qui se passe quand tu apprends, quand tu entres en relation avec d'autres, avec un projet, avec un devenir, avec des expériences. Tout ça, il faut que ça puisse être réduit à un résultat observable et qui soit valable pour tout le monde. C'est plus un truc individuel, c'est voilà. Donc, à mon avis, il y a ces deux grands axes qui sont présents dans tous les dispositifs d'évaluation et qui renvoient à ce que disait Serge, quoi. Le capitalisme a besoin en permanence de réinstaurer. C'est pour ça qu'il est en crise, de réinstaurer tout le temps un rapport de contrôle sur les individus pour les rendre mesurables et soumis. Et c'est le fond du fond de toute évaluation. Et c'est vrai que quand on a critiqué la mise en place d'évaluation nationale, on s'est attardé à décortiquer l'absurdité des items, mais à mon avis, c'est même pas la peine de le faire, puisqu'on sait d'emblée que, de toute façon, ça n'a pas de sens en soi. Ça va jamais rendre compte de ce que c'est, de ce que peut savoir quelqu'un, de ce que peut faire quelqu'un. L'idée, c'est toujours, faut que ça rentre dans des cases pour pouvoir produire des systèmes sériels de sélection, de tri, d'orientation, d'assignation à toi, tu sauras faire ça et tu iras là-bas. Parce qu'on a constaté que tu méritais pas.
Et...
C'est donner des places, vraiment. Mmh. Identifier. Il faut produire des identités.
Un tri scientifique.
Oui.
Après, un tri social scientifique, en fait.
Alors, avant, ça se faisait par la répartition des gens entre des institutions très différentes, avec des formations très différentes. Maintenant, on n'est plus dans un moule unique. Il n'y a plus qu'une école élémentaire unique qui conduit vers un collège unique. Donc, il faut bien recréer des filières séparées, des modes de sélection. Il faut individualiser au maximum pour dire toi, ton destin, ça sera de faire ça. Toi, ça sera ça.
Alors, du coup, enfin, moi, je pense que là où il faut être un peu, faut se méfier un peu, c'est que c'est pas que c'était parce que du coup, il y a une levée de bouclier. Enfin, je sais pas si elle est majoritaire, mais il y a quand même une levée de bouclier contre l'arrivée de ce fameux livret personnel de compétences. Ça veut pas dire qu'avant c'était mieux. C'est-à-dire que on a toujours évalué, on a toujours sélectionné, il y a toujours des gamins qui ont été étiquetés depuis le plus jeune âge, cancre, mauvais élève, bonnet d'âne, etc. Voilà. Après, l'idée de se, alors en plus, enfin, il faut vraiment s'accrocher pour se repérer dans ce fameux livret, parce qu'il y a le livret personnel de compétences, il y a le livret de compétences expérimental, c'est pas la même chose, il y a aussi un passeport orientation et formation, alors ça c'est relié à la fameuse loi là sur la formation professionnelle tout au long de la vie, et on se dirige quand même vers l'idée qu'ils vont avoir leur livret, donc ça va commencer, alors là pour l'instant apparemment à la grande section. Et puis hop, on le garde tout au long, on bascule au collège, on bascule au lycée, on le bascule, s'il y a plus, on le bascule jusqu'au bout et on le bascule à Pôle emploi. Enfin, il y a vraiment cette idée qu'ils vont avoir leur CV sous le bras, qui va petit à petit s'alourdir. Et j'ai l'impression que ça, c'est un peu nouveau et que là, il y a danger, surtout que l'idée du livret personnel de compétences, on l'appelle LPC. Mais LPC, c'est aussi l'application qui permet de saisir, l'application nationale qui permet de saisir les compétences via l'application Sconnet, etc. Bref.
Un fichage informatique de toutes tes
réussites. Voilà, il y a
la grande section.
Voilà,
il y a 5 ans, quoi.
Voilà. Et alors. Alors donc justement la différence entre je pense que ça vaut le coup, donc Didier disait c'est pas forcément la peine de rentrer dans le détail, moi je pense que ça vaut quand même le coup de rentrer dans le détail, mais après sur le livret de compétences expérimentales qui est pour l'instant expérimental sachant que c'est quand même 200 établissements, ce qui est nouveau aussi c'est que alors ce qu'ils disent c'est que ça va c'est pour valoriser leurs compétences dans le champ de l'éducation formelle et informelle, leurs potentialités, leurs engagements, c'est-à-dire que va rentrer là-dedans plein de choses qui sont pas forcément scolaire. Alors c'est pareil, ça peut être vu positivement, on dira ah, c'est bien parce que je sais pas si par ailleurs il fait de la flûte à bec, etc. Sauf que déjà ça pose problème parce que du coup qui va remplir ? Alors apparemment il y aura aussi un accès. Alors déjà l'enfant pourra lui-même dire ah oui, puis je voudrais dire que je sais jouer aux cartes aussi, voilà. Les parents auront un accès. qui va valider, pourquoi, enfin du coup c'est même pas seulement, on n'est plus seulement aux compétences scolaires, on va avoir un espèce de profil, parce que leurs engagements, enfin c'est vraiment détaillé, ça veut dire effectivement est-ce qu'il fait partie d'une association, qu'est-ce qui, on arrive quand même à voilà, enfin c'est plus large que le CV quoi, c'est un espèce de profil qui fait que on va arriver devant l'employeur avec en
c'est
gros
le Facebook
espèce
de l'État.
Ouais, c'est un peu ça.
Voilà. Chacun se dénonce soi-même. Et l'enseignant aussi, parce qu'il doit dénoncer ses élèves. Voilà. C'est un bon élève, je le dénonce.
Alors du coup, comme c'est un peu compliqué, il y a plein de documents qu'on nous envoie à nous, les enseignants, pour essayer de nous expliquer, parce que déjà, sinon, on n'a pas compris, ça va être compliqué. Puis l'idée, en plus, c'est que ce soit lisible pour les familles. Alors, déjà, c'est difficilement lisible, moi, je trouve, tout court, donc on ne sait pas comment ils vont s'en sortir. Donc il y a plein de, alors du coup, c'est Didier le spécialiste. Il y a l'évaluation. Alors ça, c'est les compétences, parce que maintenant, il faut... Mais pour pas froisser les professeurs qui sont accrochés à la notation, viscéralement, quoi. On peut pas leur dire d'arrêter de mettre des notes, c'est pas possible. Donc il n'y a pas de souci. Vous nous remplissez les compétences, mais par ailleurs, bien sûr, vous pouvez noter. Donc les gamins, ils vont se taper des notes en classe, plus des compétences à valider à n'en plus finir. Et ensuite, il y a la validation. Donc on a évaluation, notation, validation. Alors la validation, c'est oui ou non. Voilà. Et alors, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que, par exemple, je donne juste un exemple sur le palier qui s'appelle maîtrise de la langue française en CE1. Alors là, il y a une série de... Alors, il faut savoir s'exprimer clairement. Je vous résume, dire de mémoire, lire seul. Alors, il faut lire seul et comprendre, c'est pas la même chose. Lire silencieusement, copier un texte, écrire, donner des synonymes, trouver un mot de sens opposé, regrouper des mots par famille, ordre alphabétique. Alors, faut identifier la phrase, le nom, machin, conjuguer des verbes, écrire en respectant les correspondances entre les lettres et les sons, orthographier correctement. Alors, vous en avez 23 comme ça. Et en dessous, on vous met compétences au singulier, valider le. Et là, faut mettre une date. Alors, du coup, on imagine qu'il peut pas tout valider le même jour. Donc, devant chaque petit item, il y a oui ou non. Donc j'imagine qu'on met des petites croix quand c'est oui. Alors je sais pas si quand il a oublié on regomme, enfin on sait pas comment, voilà. Et après voilà, la compétence elle est validée. Alors sachant que normalement à la fin du CE1, il est censé avoir validé voilà le palier maîtrise de la langue française, le palier connaissances mathématiques et alors ça s'appelle plus éducation civique, ça s'appelle compétences sociales et civiques, voilà. Du coup, il faut qu'il ait 23 oui pour valider la compétence au singulier maîtrise de la langue française, on ne sait pas s'il peut passer en CE2 s'il a des noms, est-ce qu'on passe en CE2 conditionnel, on ne sait pas si ça fonctionne comme des UV. Je vois pas bien en quoi c'est plus lisible, justement, pour les familles. Et surtout, je ne vois pas bien comment ça va être rempli. Parce que du coup, une des discussions qu'on avait au stage, c'était, alors est-ce qu'il faut le boycotter? C'est-à-dire ne pas le remplir, refuser de le remplir. Non, et il y avait des enseignants qui disaient non, mais on va mettre oui à tout le monde.
Ça voilà. C'est pas vrai. Ça va pas être tenu.
Ils le disent.
C'était une des positions défendues. Voilà. Oui. Non, mais alors, du coup, c'est...
Nous, on a l'expérience dans le second degré avec la note de vie scolaire qui a été assez massivement refusée la première année, où il y avait des, je sais pas, genre plus de la moitié des bahuts à Paris, hein. Pourtant à Paris il se passe rien d'habitude, et la moitié des bahuts à Paris ne mettaient pas de notes de vie scolaire, et donc c'est les chefs d'établissement qui en mettaient au hasard, ou ils mettaient 20 à tout le monde, c'est les chefs d'établissement qui sabotaient le truc en fait, c'était assez drôle. L'année d'après les gens ils ont commencé à y réfléchir, et maintenant ça fait partie des discussions d'un conseil de classe. Oui, mais comment ça se fait que celui-là, il a 14 en vie scolaire, alors que
je crois que
j'ai
fumé un pétard derrière le collège.
Le principal?
Ou l'élève. Il a une 9 de vie scolaire.
Non, mais de toute façon, c'est même pas possible de remplir. Enfin, vous n'allez pas me faire croire que... Enfin, ça revient au même de dire je mets oui à tout le monde. Parce que du coup, le français et les maths, ils s'appliquent en général. Puis après, ils arrivent aux sciences. Alors là, c'est n'importe quoi. Donc, parce qu'il faut quand même répondre, le ciel et la terre, oui ou non? La matière, oui ou non,
non.
L'énergie, oui ou non. Comment vous voulez qu'un prof remplisse ça? Le fonctionnement du vivant, oui ou non? Je veux dire, là, de toute façon, forcément, c'est au pif, quoi. Je vois pas bien quelqu'un qui va se dire, qu'est-ce que je vais lui demander pour pouvoir mettre oui ou non à l'unité et la diversité du vivant?
Ils vont bientôt livrer des exercices types qui répondront à une question, Parce que, enfin, moi, j'ai vécu ça avec ma fille en CP. Il y avait un exercice par item, en fait, et à chaque exercice, elle mettait oui ou non à l'item, en fait. Enfin, c'était ABCD, en l'occurrence, c'était pas oui ou non. Et il y avait des, par exemple, il y avait 6 exercices de compréhension qui tenaient sur une page A4. Hein, et chacun des exercices, ça mettait exactement la note qui correspondait au, en face de l'item, en fait. Sachant que chacun des items rentrait évidemment dans tous les exercices, parce qu'on peut pas fractionner les compétences. Mais
alors du coup,
compétence déjà, c'est le mot est difficile à dire hein, parce que compétence, compétition.
Il faudra qu'on en parle un peu. Ouais.
Oui, le mot compétence.
Non, mais du coup, on en revient à l'idée de pilotage, c'est qu'effectivement, comme c'est impossible de s'en sortir, ils vont nous sortir les batteries d'exercices tout fait que évidemment tout le monde va prendre parce que sinon c'est à s'arracher les cheveux. Mais quand même, accessoirement, plusieurs fois, ils redisent que c'est pas seulement en corrigeant les exercices qu'on remplit ça. Il faut aussi observer l'élève dans sa vie quotidienne. Donc, on imagine en plus le prof avec ses petites croix poursuivre l'élève pour voir s'il a mis le papier dans la poubelle jaune ou dans la poubelle verte ou voilà. Enfin, c'est... Voilà. Non, mais si, soi-disant, c'est donc par l'observation des attitudes de l'élève dans la classe et plus largement dans l'école que le professeur des écoles est en mesure d'évaluer et de valider cette
et
compétence. Donc, faut lui courir après.
Oui, pour
dans
le ciel et la terre, je vois très bien s'il voit le ciel et s'il voit la terre, tu peux le valider, je pense.
Voilà.
Non, il y aura des exercices. Il faudra qu'il voit le ciel
non,
bleu.
Je pense que...
Il faudra qu'il le colore de la bonne couleur. C'est...
Quand les évaluations étaient
interdites, pédagogiquement, c'est d'une nullité absolue.
Je sais.
Par ailleurs,
mais le coût des compétences, enfin, et des exercices types pour préparer en fait le remplissage du livret dans le secondaire, c'est ce qu'on appelle les anabrevets et les anabacs.
Hein. Oui, bien sûr, moi je suis d'accord. Mmh. Non, mais la grande difficulté,
c'est l'absurdité pédagogique poussée au maximum.
On peut pas commenter ça parce que la grande difficulté, c'est que ils nous mettent dans l'obligation de commenter quelque chose qui va à l'antinomie de ce pourquoi ils nous ont théoriquement formés, l'éducation. Donc quand tu commences à parler de valeurs normatives sur un boulot où les gamins, qui sont donc des êtres en formation, qui apprennent des choses qui sont validables dans nos vies quotidiennes pour tous, quasiment tous les adultes, pour la majorité, on parle de l'école primaire, l'immense majorité d'entre eux, de toute façon, va maîtriser ces connaissances-là, qu'ils les découpent en compétences, qu'ils les découpent ses savoirs, ses savoir-faire, bref. En tout cas, donc, quand on se retrouve à faire valider ça, c'est pas un outil pour l'enseignant, c'est pas un outil pour l'enseigné, c'est pas un outil pour les parents de l'enseigné, c'est pas un outil pour la communauté scolaire, c'est un outil pour ceux qui dirigent la communauté scolaire, pour regarder comment elle fonctionne, et puis pour mettre en parallèle, après tout, il n'y a pas de raison que l'école soit pas aussi productive et efficace que les autres. Dans tous les boulots, je dis bien dans tous les boulots, aujourd'hui, les gens sont évalués de manière délirante. Pourquoi des enseignants et des enseignés ne seraient pas aussi? Je pense que c'est leur logique générale, hein, de mise en case, de donner aussi une direction, parce que leur grande difficulté sur ce type de métier, c'est de donner des directions. Or là, ils pensent en donner une. Alors, je pense que réellement, pédagogiquement, c'est une énorme catastrophe, qu'il y ait un véritable recul pédagogique, mais je crois aussi que l'école de la Troisième République était une grosse merde et qu'elle a produit aussi des gens intéressants. Donc, je pense pas que ça va non plus produire pire. Ça va produire aussi une marge, et que c'est plutôt les années 70, 80 et 90 qu'il va falloir oublier. C'est plutôt ça qui est triste. Et donc, ce qu'ils produisent aujourd'hui, c'est l'image complète de l'évaluation d'aujourd'hui dans tous les boulots. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est parti de l'éducation, je dis bien l'impression parce que c'est pas vrai, ça a été retravaillé pour le travail dans le privé, c'est-à-dire que quand on était ouvrier et qu'on produisait quelque chose à la chaîne, on n'avait pas besoin de savoir si le mec il a pris 5 minutes de pause pour aller pisser ou pas, et s'il était à la chaîne, qu'importe, il produisait forcément. Là aujourd'hui, tous les mecs sont vérifiés, la qualité de leur travail est vérifiée, la manière dont ils s'expriment est vérifiée, la manière dont ils s'expriment, surtout par rapport à leur chef, est vérifiée, l'ensemble de leurs gestes sont vérifiés, ils doivent remplir des objectifs, même quand ils sont délirants. Et aujourd'hui, l'école dans son globalité, école, collège, lycée, hein, même voir la fac, ça va doucement se mettre en place, quand ça l'est pas déjà. Bah, ils veulent faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils réutilisent des outils qui viennent finalement de l'école, qui étaient pour les outils parfois les plus réac de l'école, où pour eux ça leur donne des vrais outils de contrôle sur tous les individus, en leur disant, voilà, regarde, tes défauts c'est ça. Enfin, je veux dire, on invente des défauts, tu te mets dans une grille, bien sûr que t'inventes un défaut. Un enfant, Et dans la liste qu'ils ont qu'ils sont censés remplir, oui, il y en a qui vont aller beaucoup plus lentement. Il y en a qui vont mettre 2 ans à savoir faire une addition. Puis il y en a, ils vont le faire spontanément depuis qu'ils sont tout petits. Et alors, quel est le problème? Enfin, donc, du coup, toutes les normes qu'ils sont en train d'imposer, c'est juste des normes pour vérifier et notre travail, mais aussi celui des enfants. Ce qui est le plus terrible, c'est l'avancée des gamins avec déjà quelque chose qui, et on a cette impression, parce qu'il y a aussi ce qui va suivre toute notre vie, ces fameux livrets de formation, c'est un suivi général où on s'échappera plus de ces cases dans lesquelles on a été mis, et où finalement, c'est pas parce que on n'aura pas le droit d'acquérir quelque chose par soi-même, c'est forcément la case qui nous donnera exactement ce qu'on est, et socialement et plus tard.
Alors on va faire une petite pause musicale pour laisser les auditrices et les auditeurs nous appeler, réagir. N'oubliez pas, si vous avez des infos à faire passer qu'on pourra annoncer à l'antenne après la pause musicale, n'hésitez pas à appeler au 01 43 71 89 40.
Pour reprendre là où on en était, je faisais juste un parallèle entre le monde du travail qui est quand même particulièrement dur à l'heure actuelle et qui développe un certain nombre de choses. Je pense que les traumatismes dans le monde du travail liés à ce qu'ils appellent le management, c'est-à-dire la hiérarchie, hein, soyons clairs, sur la façon simplement de gérer l'humain, comme ils disent si bien, puisque maintenant on a aussi des DRH partout, même l'éducation nationale, qui sont censés remplacer progressivement tout ce qui existait comme représentants collectifs, c'est-à-dire les syndicats, la manière de gérer l'humain, je pense qu'ils le font de la même façon pour les enfants, pour les adolescents et pour les enseignants. Il n'y a pas de raison que tout ce monde échappe à cette loi générale de stress dans laquelle vit tout le monde du salariat.
C'est ce que nous a remarqué une auditrice qui a appelé, oui, là. D'ailleurs, on est désolé, il y a eu d'autres appels, mais qu'on n'a pas pu prendre. Il y avait beaucoup d'appels. L'auditrice nous signalait bien que l'éducation nationale n'était pas un îlot, toute la société était bien dans la même déroute, dans le même système.
Ah, mais c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe pour individuel, pour les gens. D'abord, ça les individualise, au sens, puisque on parlait d'individus, c'est volontaire, parce que si on met chaque personne dans des objectifs individuels, ça évite toute lutte collective, parce que mine de rien, si chaque personne a des objectifs différents, donc forcément, leur travail est différent. Même si c'est pas vrai, hein. L'initial, quand on est caissière, par exemple, on va faire dans une boîte quelconque, un supermarché, où le chef local, le directeur du magasin va faire remplir à chacun ses objectifs particuliers, même s'ils font exactement le même boulot, ils vont avoir des objectifs différents. Alors évidemment, ça va être des objectifs à la con, hein. Ça va être celui de tu ne souris pas assez, donc il va falloir améliorer ça dans ton comportement. Ça va être formulé différemment, bien sûr, hein. Ça va être il faudrait que tu sois plus efficace dans le passage des articles à la caisse. Ça va être pour celui qui surveille ou qui passe dans les rayons, tu dois jeter un coup d'œil à tous les jeunes qui passent dans les rayons. Bref, chacun va avoir son petit objectif et au final la pression individuelle fonctionne. On est aussi dans une société atomisée où les individus ont pris de plein fouet le fait qu'ils étaient atomisés. Et l'école, en soi, pour le coup, n'y échappe pas. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'un milieu enseignant, qui était un milieu assez porteur d'un certain nombre de valeurs collectives, au moins dans l'éducation, et qui avait théoriquement une vision éducative, accepte, en tout cas, ne résiste pas beaucoup au fait que des outils complètement délirants par rapport à l'éducation, qui mènent directement au mur des enfants, sont validés par ces enseignants. Alors après, il y a plein d'attitudes différentes et de formulations différentes. Ça alourdit parfois le travail de beaucoup d'éducateurs, on va les appeler plutôt comme ça, je préfère. D'éducateurs dans le sens où les enseignants, s'ils se prennent sur eux, ça veut dire qu'ils vont remplir d'un côté ces conneries pour leur faire un blanc-seing à l'administration, donc une surcharge de travail, et puis en parallèle vont éduquer les gamins et les amener dans les apprentissages, tout simplement parce que apprendre, ça signifie qu'il y a un temps donné pour certains qui est pas le même pour d'autres, que c'est sur du long terme, que chaque outil qui est utilisé dans une société qui se reflète dans l'école et qui est l'outil, ce qui n'empêche que l'école aussi est l'outil du capital, mais ce qui n'empêche que c'est aussi l'outil de la collectivité puisqu'on vit là-dedans, que les gamins s'en emparent. S'ils veulent le mener à bien, c'est d'abord les salariés qui vont le vivre en dichotomie, parce qu'ils sont en permanence dans un double langage, c'est-à-dire un langage vis-à-vis de l'employeur et un langage vis-à-vis des gamins. La boîte de conserve, au moins, elle a l'avantage, quand on produit, c'est qu'elle nous répond pas. Tandis que le gamin, bon, il va nous répondre. Il aura, en plus, le pire, c'est quand les gamins renvoient sur des trucs qui n'ont pas de sens, ce qui est vrai qu'ils le font quand même régulièrement, et souvent, ils ont raison. C'est-à-dire, enseigner, ça doit avoir un sens. Et donc, quand on éduque des enfants, ça a aucun sens de leur faire des trucs délirants. Et là, en l'occurrence, on va vers ça. Et c'est pas étonnant en soi, hein, au niveau structurel, mais c'est difficile à entendre pour je pense une partie de l'éducation, pour une partie des enseignants en tout cas.
Ça là.
Ouais. En fait, moi, je voulais intervenir par rapport, en fait, parce que moi, je suis éduxpé, en fait, et je travaille avec des enfants qui sont handicapés et qui sont donc particulièrement touchés par ce qu'on appelle les troubles des apprentissages, en fait. Donc, c'est des dyslexiques et des dyspraxiques, surtout. Et en fait, par exemple, donc, c'est les enfants qu'on suit, nous, ils sont donc intégrés dans les écoles, donc en primaire, en collège et tout ça. Et qu'en fait, la question de l'évaluation, en fait, eux, les touche particulièrement parce qu'en fait, le problème qu'ils ont, c'est que, autant les pédagogies et les modes d'apprentissage qui leur sont destinés, que ce soit pour le français et les maths, ça les avantage pas. Mais pourtant, au bout du compte, ils sont évalués de la même manière. Ce qui fait que l'évaluation génère l'échec chez eux, en fait. Chez nous, par exemple, la plupart des enfants qu'on suit, que ce soit à partir du CP, en fait, c'est qu'ils sont tous en échec dans le sens où ils ont des mauvais résultats, voire aussi en plus des problèmes de comportement, parce que pour le coup, comme ils sont maltraités, forcément ils réagissent.
Ce serait peut-être lié, même.
Ouais, c'est lié carrément, quoi. Et pour le coup, moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a souvent reproché que les enfants qu'on suit, ils ont des problèmes de comportement, parce qu'ils sont pas très gentils en classe. Et mais que le souci, c'est des méchants. Ils sont très méchants, les Anglais. Et que pour le coup, la question de l'évaluation les touche particulièrement, parce qu'en fait, eux, ils sont, comment dire, enfin, après, c'est dans le même principe que les que d'autres élèves. C'est-à-dire que le problème du rythme du temps qu'il leur faut pour apprendre les maths ou pour apprendre le français, c'est pas le même que les autres, et que les supports qui leur sont proposés sont pas adaptés, mais pourtant, on va les évaluer comme les autres, et pour le coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retrouver à l'échec, et après, ils vont se retrouver orientés à la fin en SECPA, en trucs comme ça, ou... Et voilà. Et donc, je pense que tu vois, les élèves handicapés dans l'éducation nationale, je pense que c'est un peu le symptôme un peu de
l'unique réponse du système de l'éducation nationale face à ce genre de problème, c'est le tiers-temps. Voilà. C'est qu'ils leur donnent lors des évaluations, pas toutes évidemment, parce qu'ils sont évalués très régulièrement en temps limité. Et ils ont le même temps que tout le monde, mais pour les évaluations de type brevet ou bac, ils ont le droit à un tiers-temps supplémentaire. Alors que souvent, c'est pas un problème de temps de composition, c'est un problème plutôt de temps d'apprentissage pour ce genre d'apprentissage-là.
Tout à fait,
Moi, je voudrais juste ajouter un bémol, pas par rapport à ce que disait Salah, mais par rapport à ce que disait Serge. Alors, c'est pas le sens de ton discours, mais on a toujours l'impression que c'est vachement pire qu'avant, c'est de pire en pire, etc. Et je pense que c'est pas le cas. Je pense que ça a toujours été pire, entre guillemets. Quand on bossait 60 heures, c'était pas plus dur que... je pense pas que c'était plus dur. Je pense pas que c'était moins dur, pardon, que de se fixer des objectifs personnels. Je pense que le milieu du travail est un milieu... qui broie, voilà. Je pense que l'école est une institution qui broie les enfants, ça a toujours été le cas. Alors après, avec effectivement des vagues de mode, c'est-à-dire que ça a été, je pense, l'enfer, parce que c'est tu parlais de troubles du comportement, ça là, mais il y a des vieux enseignants qui disent mais je comprends pas, avant ils bougeaient pas comme ça, mais non, c'est normal, le premier qui bougeait, on l'envoyait en classe de perf, en enseignement spécialisé, et puis après pouf, il partait à l'usine, donc ils étaient ultra triés. Donc effectivement, il restait que ceux qui avaient appris à pas bouger. C'est pas forcément ceux qui avaient compris d'ailleurs, mais en gros, c'est ceux qui bougeaient pas. Et puis après, on s'est mis à les intégrer. Et d'ailleurs, y compris tu parlais des élèves handicapés, puisque du coup, la politique actuelle est de les intégrer dans les classes. Donc c'est pareil. Du coup, on découvre.
Non,
plein.
On dit de les désintégrer dans les classes.
Voilà. On découvre des choses qui avant étaient mises à l'extérieur du cursus général. Donc voilà, du coup, ouais, c'est pas pire, je pense. C'est juste que que voilà, c'est pas brillant, que l'école c'est l'enfer quand même pour beaucoup d'enfants, pour beaucoup de parents aussi, hein, parce que vous allez rentrer, les gamins ils vont rentrer avec leur livret, voilà. Outre que le fait, alors ça se trouve ce sera mieux pour les gamins, parce que du coup quand tu rentres avec un zéro, les parents ils comprennent. Quand tu rentres avec oui non, le ciel et la terre, peut-être que t'as la chance que tes parents aient pas compris. Et que donc peut-être t'échappes à la rouste, tu vois, ça se trouve, les gamins vont être contents, hein, je sais pas. Donc voilà, c'est à tester, la baisse des violences en milieu, dans les familles, suite au LPC.
Voilà. Alors on se tiendra au courant au fur et à mesure de ce genre de choses, en demandant à nos élèves si les roustes sont moins importantes qu'avant, et en regardant les stigmates sur leur corps. On pourrait peut-être essayer d'en revenir au sens du mot compétence. Et déjà, ouais, Didier.
J'étais sûr. C'est quoi une compétence,
Blanc, Didier,
Bon.
Parce qu'il faut qu'on comprenne quand même ce qu'ils ont mis derrière.
Pourquoi ce mot-là a été utilisé, pas entre autres. Alors moi je voulais revenir sur l'intervention de Florence et Serge. Serge a dit une chose juste, c'est que bien sûr l'école républicaine, on sait pourquoi elle a été fabriquée par Jules Ferry, contre d'autres systèmes scolaires, contre l'école mutuelle, contre l'école religieuse, contre les écoles populaires faites par les syndicats, bref, il y avait une volonté très forte de mouler et de construire des personnalités qui allait fabriquer la chair à canon de grands conflits mondiaux. Des gens qui sont tous partis au pas, soumis, dociles, et qui partaient la fleur au fusil.
C'est
ça
important.
A été réussi.
Ça a été super bien réussi.
Bravo, Julot.
Les gens, ils apprenaient tout gamin à lire, écrire, compter, chanter la Marseillaise, marcher au pas, et ça a été réussi.
Les livres d'histoire sont grands.
Mais... il se trouve aussi qu'il y a eu une période dans le monde du travail et dans le monde éducatif, a été plutôt favorable de notre point de vue. C'est effectivement les années 60, 70, où dans le monde éducatif, il s'est passé des choses qui sont proprement impensables maintenant. Oui, même quand un ministre Savary, il n'a pas tenu longtemps, il a tenu un an. Mais il faut voir que c'est quand même lui qui a soutenu les projets des lycées autogérés, des choses comme ça. Bon, il y a eu une phase donc que le patronat a bien ressenti comme étant un renversement d'un rapport de force global sur un cycle long, un cycle économique, d'équilibre entre des rapports de classe capital-travail. Et c'est la logique compétence participe de donc et ses modalités d'évaluation. Ça vient directement pour renverser ce rapport de force que le capital affirme comme défavorable. Et ça a été efficace, ça a marché, puisqu'effectivement, l'atomisation et la destruction des collectifs de travail a réussi par ces modes d'individualisation, d'évaluation, de mise en place, de gestion des gens par, alors, ce terme de compétence. Et c'est vrai que c'est intéressant de faire l'historique, de voir comment ça a été introduit d'abord à la demande des patrons, dans des modes de gestion. Pourquoi c'est ce mot-là qui a été choisi? Parce qu'il fallait que ça réponde à certains critères préalables. Le paradigme, disons. Autrefois, on parlait de qualification, on parlait de... avant, on parlait de métier, avant, on parlait de... Je sais plus, oui.
De formation.
Des mots qui désignaient donc la force de travail, voilà. Qui désignaient des... Bon, j'en sais rien. Ce terme de compétence, le sens qui va lui être donné, c'est en étudiant donc les discours patronaux, les choses qui se mettent en place dans l'industrie, les discours des grandes organisations internationales comme l'OCDE, qu'on voit qu'il s'agit bien de dire, au départ, une compétence, c'est une question qui a été soulevée à notre stage là, ça n'a rien à voir avec la définition juridique. Au sens juridique, c'est quoi une compétence? C'est dire, c'est définir un territoire Donc c'est valable à l'intérieur de ce territoire, c'est le domaine de compétence d'un tribunal, etc. Il est compétent ici, mais pas là, pas dans tel domaine. Et puis définir la spécificité d'une action, sa légitimité. Elle est légitime si elle est vraiment effectuée dans ce territoire-là et pas dans un autre. Si elle sort de son domaine de compétence, elle est plus compétente. Voilà. Et c'est exactement le contraire qui va être développé dans les nouveaux modes de gestion du travail. C'est de dire maintenant, il faut qu'on considère que les individus sont, ils doivent être bons à tout faire, adaptables à tout type de situation, polyvalents, mobiles. Précaires, il faut qu'ils aient plus aucun statut qui puisse les rendre sûrs d'une carrière, d'un devenir, d'une évolution. Donc il faut qu'il y ait une vulnérabilisation qui soit ressentie dans tous les domaines de la vie des gens. Une mise une fragilisation, quoi. Il faut que tu sois plus jamais sûr de quoi que ce soit. Et il n'y a que l'évaluation, justement, qui, imposée en permanence, te demande de sans cesse de rendre des comptes de ce que tu fais. Parce que tu es jamais sûr de faire bien. Et au contraire, on va te mettre sans arrêt dans une situation dont tu ne maîtrises pas les critères de jugement et dont tu sais que les moyens qui te sont alloués ne permettront jamais d'atteindre l'objectif final. Qui de toute façon est toujours repoussé beaucoup plus loin que ce qui est annoncé. Et ça c'est le critère qu'on retrouve dans toutes les entreprises, pas forcément les gens suicides, hein, pas forcément France Télécom, mais à peu près partout dans toutes les boîtes.
Non, ça fragilise, les dépressions, des grosses déprimes, la difficulté de s'orguer. Quand un mec va se faire virer, au lieu d'avoir une réaction collective, alors que c'est quelqu'un qui fait à peu près la même tâche, les gens courbent les chines parce que c'est qu'une personne et que finalement il a pas réussi ses objectifs.
Hein. Alors que son voisin peut être réussi.
À ce moment-là, oui. Ah ouais.
Donc le concept de compétence, donc qui est apparu dans les modes de gestion du travail, comment il a été repris en éducation? Eh ben c'est à la demande des grands syndicats patronaux et de l'OCDE, en se disant il faut que la formation professionnelle, dans un premier temps où ça s'est mis en place, puis les systèmes éducatifs européens et mondiaux soit capable de définir les gens en fonction d'aptitudes qui seraient des choses équivalentes chez tout le monde, qui seraient indépendantes des circonstances. Et c'est vrai que c'est assez extraordinaire. Je me suis penché dans les travaux d'un groupe qui s'appelle DECO, qui est un groupe de travail de l'OCDE, qui ça veut dire définir et sélectionner les compétences clés pour l'avenir radieux de l'économie et de la connaissance. Voilà.
Ça fait rêver.
Voilà. Et alors
rien là, pour le nom.
Là-dedans, il y a.
C'est magnifique.
Ils sont payés chez ces gens-là. C'est ça qui est ouais. Et bien, ça fait halluciner.
Donc, t'as des chercheurs. Enfin, il y avait peu de chercheurs. C'est vrai qu'il y avait peu de scientifiques qui avaient accepté de collaborer à cette saloperie. Mais il y avait.
Il y a toujours quelques arrivistes, même chez les chercheurs.
Il y avait Conto Sperber, la directrice de Normalsup, notamment.
Tu peux le dire.
Bip, bip. Voilà.
Je ne donnerai pas son nom de famille.
Oui, arriviste, parfaite. Ouais. Elle a eu plein de déboires à Normalsup. Les études n'ont pas réussi à la virer, pourtant ils ont essayé. Et en fait, c'était surtout des institutions patronales, financières... Et les ministères de l'éducation nationale de plein de pays, donc ils se sont réunis entre 1996 et 2000, je crois, 2000-2002. Et alors ces compétences clés dont ils nous rebattent les oreilles, il s'agissait bien pour eux de les définir, et c'est là-dessus qu'il y a eu, c'est pour ça aussi que les scientifiques ont fait y participer, parce qu'il fallait échapper au sens courant que nous on entend quand on parle de compétences. Quand tu dis, ah ouais, lui il est super expert dans son domaine, il est vachement compétent, ça veut dire qu'il a un tour de main, qu'il a une vision, qu'il a un savoir-faire, qu'il a une longue expérience, une donc qu'il a acquis des choses qui ont fait corps avec lui, qui l'ont transformé, qui l'ont rendu je sais pas, moi je connaissais un bon non. Si je connaissais par exemple un prof de lycée technique qui à vue d'œil était capable de donner la mesure exacte d'un objet, par exemple, qui avait réussi à acquérir pas. Mais alors, après des années de pratique.
C'est comme un boucher qui te coupe un steak de 150 grammes.
Par exemple, dans tous les métiers, on voit ça.
Vous
des gens qui ont acquis des savoir-faire, qui sont inobservables, on peut pas en rendre compte par des grilles de compétences. C'est parce que ça tient à tout un ensemble de... quand on dit qu'on a cette intelligence, c'est vrai, une intelligence de la vue, du toucher, de sentir les choses. Donc, c'est toute une richesse, tout un ensemble de perceptions, d'affections, de sensations. Enfin, bref. Donc, il fallait échapper à ça, puisque la... Tout ça, c'est pas observable, c'est pas
quantifiable.
On peut pas le mesurer, on peut pas le mettre en grille. Et puis c'est forcément toujours lié à une situation. Et en fait, c'est ça la compétence, c'est-à-dire tu es compétent toujours dans un contexte très précis. Forcément, l'exemple, c'est les scientifiques. Un scientifique qui sort de son domaine, Michel Serres disait, le scientifique, c'est quelqu'un qui est très perspicace sur un microscopique petit truc et il devient complètement aveugle dès qu'il sort de son domaine. C'est qu'il est même incapable de penser la relation de ce qu'il fait avec le reste du monde. C'est pour ça que la majorité des scientifiques sont terrifiants au niveau de la pensée, parce qu'ils savent pas penser tout simplement. C'est des machines à
c'est quand même spécifique au 20e siècle.
C'est spécifique au 20e, oui. C'est vrai que les scientifiques du 19e n'étaient pas comme ça. C'était des gens qui étaient beaucoup plus ouverts, polyvalents.
La science, c'est d'abord la philosophie. Et donc, à partir de là, ceux qui sont nés au 19e et qui ont débuté le 20e siècle ont donné des esprits qui avaient encore un esprit ouvert sur l'ensemble des connaissances. Et aujourd'hui, la spécialisation est complète. Enfin, moi, je trouve ça tellement délirant de spécialiser des gens dans des domaines qui sont souvent des domaines lié à notre beau développement technologique, majoritairement. Alors après, ça peut se discuter quand c'est des domaines, d'autres domaines, mais bon, bref, tout ça pour dire, c'est pas complètement non plus, c'est complètement lié à l'époque. L'époque est bien de là-dessus. Où chacun étant dans une case, là, une case où l'intellectuel n'a plus de représentation générale du monde, mais une représentation particulière. Si on est physicien atomiste, on ne va pas s'intéresser à la linguistique, même si les deux, pourtant, contribuent fortement aujourd'hui à l'oppression des individus. Mais ce qui n'empêche que le domaine particulier, les personnes en sortent peu, ouais, parce que la formation générale, elle n'est pas là-dessus, elle n'est pas sur, elle n'est pas philosophique. Enfin, alors que la science, son essence, c'est la philosophie.
Et parce que les gens ont été évalués avant d'être formés aussi.
Non, mais
on les a envoyés dans un domaine très précis.
Non, mais l'ensemble.
Parce qu'on a décidé qu'ils allaient y être bons.
Oui, non, enfin là, on avait un peu dérivé. Hein. Ouais. C'est pas uniquement sur l'évaluation, c'est aussi des choix éducatifs.
Ah, oui.
C'est des choix éducatifs volontaires, c'est-à-dire que dans un monde qui te dise beaucoup plus complexe. Moi, je le pense beaucoup plus simple, justement. C'est, en fait, au final, pourquoi on revoit les résurgences aujourd'hui? Pourquoi le pouvoir, on pourrait le comparer à un pouvoir qui a existé, la noblesse. Enfin, on hallucine sur le fait qu'aujourd'hui, dans les milieux politiques, économiques ou même culturels parfois, on a des enfants d'eux, voire des petits-enfants d'eux. Pourquoi ce type de résurgence, type noblesse, c'est-à-dire quelque chose qui avait échappé un peu, surtout en France, où il y avait eu quand même un des rares pays dans le monde où il y avait une véritable rupture par la mort de ces personnes. Aujourd'hui, t'as des résurgences, c'est aussi parce que les choix technologiques faits dans des sociétés capitalistes d'aujourd'hui, c'est des choix au niveau éducatif bien précis. Enfin, je veux dire, quand ils te disent et quand ils remettent au pas l'université ou l'école en général, en disant qu'ils en ont besoin pour la force du travail, ça a toujours été vrai. Mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que la technologie, elle a toujours été soumise à quelque chose qui est lié aux sociétés dans lesquelles on vit, c'est-à-dire à des sociétés qui sont militarisées, qui sont très hiérarchisées, et où tout est pensé pour ça. Et pour, évidemment, le pan qui s'est développé au fur et à mesure, où l'économie a pris un pas et est devenue quelque chose comme un dieu, et Dieu est ici, s'appelle économie, et on doit toujours produire toujours plus et toujours pour plus de fric. Et l'évaluation, c'est vraiment un outil puissant. Non pas que l'évaluation en soi soit quelque chose, mais que le fait que les révoltes d'aujourd'hui soient très individualisées, je dis bien révolte parce que c'est un choix volontaire de mots, parce qu'il n'y a pas de possibilité de construire des révolutions quand il n'y a pas d'esprit collectif, eh bien, avoir des outils en face chez des chefs et autres patrons et qui leur permettent d'individualiser encore plus, ça veut dire que toi, dans ta pensée, tu as forcément 30 ans de retard par rapport à eux, ou si tu te penses en tant que classe sociale, et non pas en tant qu'individu, et en tant qu'individu qui peut parvenir, parce que ça, ils ont réussi aussi à faire intégrer à plein de gens, on peut parvenir à de nos vies, à être mieux, à être ceci, blablabla. Eh ben, en utilisant un outil qui, pour le coup, est appliqué partout, où chacun est renvoyé dans sa case de mal-être, parce que c'est quand même bien d'être valorisé dans sa vie. Donc si on remplit pas ses objectifs liés aux évaluations chaque année, eh bien mine de rien, c'est quand même qu'on a un problème. Alors on peut le résoudre, hein. Il y a plein de solutions individuelles. Le psy, des discussions collectives, mais collectives uniquement sous les l'égide de notre petit chef qui est présent et qui va recadrer tout ça, etc. Et toutes ces solutions qui visent à l'amélioration de la qualité de travail, mais c'est pas la même pas la qualité de travail qui vise, hein. C'est juste la soumission. C'est la soumission. Je pense que leur moteur dedans, justement, il n'est pas du tout économique. Il est d'abord politique, et ensuite, il a un objectif économique pour eux. Et bon, l'évaluation, c'est vraiment, vraiment un outil puissant, et d'avoir divisé en compétences et évalué chaque compétence, c'est inattaquable dans le sens où c'est attaquable, hein, mais c'est inattaquable pour beaucoup d'enseignants. Parce que très longtemps, ils se sont retrouvés à dire, particulièrement en école primaire, que bon, finalement, la note, il y a eu quand même tout ce courant des années 70-80, qui faisait que, 90 même, qui faisait que, oui, ben, il y avait, les gens comprenaient au moins ce qu'était un apprentissage. Et on est dans un reflux, Didier le disait très bien, et bon, faut le vivre comme tel, quoi. Oui, on va revenir à des années un peu plus dures, mais ça veut pas dire que ça va pas produire de la critique, ça veut pas dire que les enfants vont tous être broyés, ça veut pas dire qu'il va pas y avoir des révoltes, etc., etc., hein. Ça veut dire juste que le mode de gestion, pour les gamins, va se redurcir, pour nous aussi en tant que salariés. Voilà. C'est tout. Et c'est le cas, hein. Et après, c'est plutôt la capacité à nous de résister qui est mise en cause, parce que bon, c'est un milieu qui est resté relativement syndiqué par rapport à d'autres, qui a relativement la capacité de se mobiliser sous forme de grève, au moins. En tout cas, ces quelques dernières années.
Plutôt.
Ouais, juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la soumission, et aussi un milieu où la soumission est vraiment intégrée, puisque on en parlait en tout début d'émission, on parlait du refus d'inspection, et alors qu'on est dans une profession où les gens peuvent refuser d'être évalués, ils sont évalués quand même, mais en tout cas, ils peuvent refuser au chef de venir regarder ce qu'ils font. Les gens l'acceptent, et ils l'acceptent parce que la soumission, elle est complètement intégrée. C'est pas parce qu'ils vont se faire taper sur les doigts, etc. C'est parce que, des fois, on leur dit, bah, pourquoi tu refuses pas? Bah, c'est normal. Voilà. Et c'est quelque chose d'intégré. Bon, accessoirement, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on apprend à l'école. Voilà. C'est normal d'avoir un chef. C'est normal d'être contrôlé. Et Didier parlait tout à l'heure du fait de cette espèce d'incertitude de pas savoir si on fait bien ou pas bien, c'est vraiment un truc qui est très 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 présent chez les enseignants. Ils sont jamais sûrs complètement. Du coup, le fait d'avoir une note, ça les rassure. Ah bah j'ai 15, donc c'est pas trop mal. Ah, j'ai 18, oh là, c'est canon. Voilà. Peut-être tu voulais finir, non Didier, sur le... J'ai oublié l'acronyme de... Non ?
Sur les compétences.
Qu'est-ce que signifie compétence ? Pourquoi le terme compétence ?
Oui.
Organismes internationaux. Le FMI, par exemple, c'est un Français, je crois, qui dirige, je ne me rappelle plus de son nom. Eh bien,
un poète. Dédé.
Un mec, ils ont dit, ouais, peut-être qu'il remplacerait.
Un socialiste. Non, je pense que.
Un quoi? C'est vrai. J'ai pas entendu.
Laisse Didier parler.
Vas-y.
Non, c'était une blague. C'était une boutade, vas-y. On prend.
Non, je pense que c'est important de savoir ce que ça veut dire dans le langage des chefs compétences, parce que. Parce que pour la majorité des gens, ça veut dire ça signifie quelque chose de positif, être compétent. Mais pour un médecin, pour n'importe quel boulot, compétent, c'est celui qui sait faire son métier correctement. Maintenant, on en arrive à une définition qui est promue par la hiérarchie, par toutes ces institutions, qui signifie exactement le contraire. C'est-à-dire en quoi finalement les gens pourraient être réduits. Alors, c'est assez intéressant de voir les questions qui ont été posées donc par ce groupe de SECO, je reviens dessus, où ils disent donc quelles sont les compétences nécessaires dans la vie, mais sachant que ces compétences, il faut qu'elles soient indépendantes des cultures, indépendantes de l'âge, du genre, du statut, de l'activité professionnelle, du milieu où tu vis, de la politique, de la société, de la famille, des relations publiques ou privées, du développement de la personnalité. Comment on pourrait parler de quelque chose finalement, si on enlève tout ça? Qu'est-ce qui reste? Eh ben, c'est-à-dire, il reste un vague squelette vide de je sais pas quoi. Et c'est vrai que, en réponse à ça, il y a un anthropologue qui s'est laissé embrayer, il s'appelle Jacques Goudy. Quand on lui a posé ces questions, il a dit, mais attendez, mais vous voulez que je participe à un truc comme ça, où on va me demander de dire des conneries? Donc, il a refusé, en disant que c'est, pour n'importe quelle personne tant soit peu sensée, c'est pas imaginable de répondre à ces questions, parce que ça veut rien dire. Le boulot d'un anthropologue, justement, c'est le contraire, c'est de montrer qu'il n'y a pas d'humain en général. C'est une vue de l'esprit, enfin non, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une idéologie très précise qui a pour but d'imposer une définition de l'homme, et pas de la femme d'ailleurs, de l'homme. Qui vise uniquement à disqualifier d'autres définitions qui pourraient nous intéresser. Et qu'est-ce que je voulais dire, j'ai oublié.
Alors moi j'avais une question, ce groupe là de SECO, c'est ceux qui ont participé à la création de PISA, ou les deux choses sont totalement...
Ah, c'est très proche, parce que le groupe de SECO, il a son siège en Suisse. Je crois que c'est au même endroit que le groupe de travail PISA.
PISA pour les auditeurs. Programme international pour le suivi des acquis des élèves. Voilà. Ouais. Alors, sachant qu'on parlait d'évaluation et de capitalisme, il se trouve que c'est l'OCDE qui a lancé cette évaluation. Encore, ça a commencé en 2000, si je ne m'abuse, et c'est tous les 3 ans. Et c'est donc les pays de l'OCDE qui participent à cette évaluation. C'est des élèves de 15 ans, donc fin de la scolarité obligatoire, plus, alors maintenant ils ont rajouté des pays partenaires. Voilà. Et du coup, là, on en a parlé un peu dans les journaux, parce que les résultats PISA 2009 sont enfin sortis.
Français, ils sont pas très bien classés.
C'est moyen.
Compétition internationale.
Ouais. C'est la honte. Non, alors du coup, au niveau des
compétitions. Alors, je veux dire, sur le terrain, on n'était pas très fort, hein. Mais je crois qu'on va s'améliorer, hein, parce que là, le dernier entraînement.
Mais c'est vrai que c'est encore un truc ridicule, quoi. C'est.
Alors, du coup, la France, elle est dans la moyenne pour les performances. Alors, du coup, si on laisse, peut-être on va relaisser Didier expliquer pendant 10 minutes ce que c'est que les performances. Et par contre, au niveau des inégalités scolaires, alors là, on est vraiment, vraiment, vraiment à la queue de la queue, quoi. Ça va pas du tout.
Oh non, justement, on est balèze. Il y a plus d'inégalités, on a gagné en inégalités.
Oui. Ah, ça, c'est sûr. Où il y a... C'est incontestable.
Selon leur évaluation.
Selon leur évaluation.
Bien sûr.
Ce que je pourrais faire, c'est peut-être une petite...
Et donc on allait parler de performance, en particulier via les enquêtes internationales de réussite scolaire, en PISA. On n'avait pas fini, mais en fait c'est que Didier, on a tellement parlé pendant la pause musicale qu'il n'a plus rien à dire.
Non, alors ce qui est bien, moi ce que j'aime bien, alors du coup Didier, mais il le dira mieux que moi, en gros il dit que c'est n'importe quoi et il a raison, mais c'est toujours intéressant de voir comment on analyse n'importe quoi. Alors voilà, entre autres, alors ils disent que augmenter, donc ça c'est les conclusions, hein, après, donc on a vu qu'on était moyen, c'est ce qu'on disait juste avant la musique, on est moyen, quoi, on est très moyen. Alors ils disent augmenter le salaire des enseignants est une politique plus efficace que réduire les tailles des classes. Voilà. Donc on ne sait jamais, parce qu'on va avoir une augmentation dans l'année en urgence pour le prochain PISA. Parce que la Corée et le Japon réussissent très bien avec plus de 30 élèves par classe. Alors ça j'adore, parce qu'on nous le ressort régulièrement. Alors je veux dire, on est quand même enseignant. C'est évident qu'avec moins d'élèves c'est plus facile. Mais bon, il paraît que non, à 30 ça fonctionne. C'est peut-être le climat, je sais pas. Voilà.
C'est
et alors
aussi
l'autre
pédagogique. Hein.
L'autre truc, alors c'est
la
marrant parce que des fois,
on a le droit d'expression dans la classe, par exemple, de s'exprimer, de bouger.
Voilà.
Ça peut jouer, non?
Ouais, puis par exemple dans les pays froids, être 30, peut-être du coup t'as plus chaud, donc c'est plus facile.
T'as raison.
30 dans un igloo, ouais.
Mais dans les pays chauds, dans les pays chauds à 50, c'est pour ça que les élèves africains ont du mal.
À 120 en Afrique, c'est pas
50
terrible.
Ou 60 voilà, ou plus. C'est complexe, non, mais voilà. Ouais, c'est vraiment une catastrophe, ces études.
Alors du coup, il y en a qui disent qu'ils se sont améliorés. Alors l'Allemagne, c'est une bonne nouvelle quand même. L'Allemagne, la Pologne et le Portugal se sont améliorés. Voilà, on les félicite.
Bravo.
Et ils se sont améliorés en réformant leur système d'éducation. Et dans aucun de ces trois pays, la réforme n'a renforcé la compétitivité entre les établissements. Absolument. Alors c'est marrant parce que nous, on y va droit là en France à la compétitivité entre les écoles, entre les établissements, etc. Et il paraît que c'est pas efficace. Voilà. Donc comme quoi, hein, parfois, ça peut être utile les évaluations internationales fabriquées par l'OCDE. Voilà. Non, mais c'était, je fais l'avocat du diable volontairement. Hein.
Ouais, ouais.
Voilà. Non, c'était pour dire, voilà, c'était les conclusions de PISA 2009. Voilà.
C'était
un pisalé. Bien.
Sur après le PISA ce pisalé, passons à la suite. Non, c'est une catastrophe, toutes ces histoires d'évaluation. Non. C'est mettre des grilles évaluatives sur des connaissances, sur le fait qu'il y a des choix différents dans une société qui est telle qu'on la vit, qui est dure, où il y a des enfants de chômeurs, où il y a des enfants de cadres, où il y a des enfants de bourges, et des enfants de prolos. Et on se retrouve à mettre sur la même grille des enfants avec toutes les stigmates sociaux qu'ils ont, parce qu'on évacue le terme social, tout est psychologisé maintenant, et on se retrouve à faire des évaluations sur des choses qui ne sont pas les mêmes choses. Pourquoi un plombier n'aurait pas le droit d'avoir sa spécificité? Pourquoi sa connaissance serait inférieure à celle d'un avocat? Pourquoi la connaissance générale serait primée plus que la connaissance technique? Pourquoi, enfin, toutes ces questions-là sont évacuées par ça. C'est fatigant. C'est-à-dire que le rôle de l'école était déjà nivelé par le bas et d'une culture bourgeoise qu'on imposait à toute la classe ouvrière, et ça s'est fait tout au cours de l'histoire, qu'importe les courants pédagogiques. L'école était qu'un outil pour bien imposer une culture bourgeoise, et celle de la sélection, celle de l'écrit, celle de la lecture, qui est aussi une culture d'émancipation, mais qui ne se joue pas par les termes scolaires. Et c'est une catastrophe de coller un outil qui est un outil vraiment de sélection, au vrai sens du terme, c'est-à-dire où on stigmatise et on met en permanence. Et moi, ce qui me fait marrer en plus dans leurs études internationales, c'est que comme ils passent leur temps à ça, ils ont même réussi à faire que leurs propres organismes financiers, maintenant, eh bien, ils les évaluent, les États sont évalués. Je vous rappelle qu'il y a des États qui flippent de leurs notes.
Ah ouais.
Et que ça peut provoquer des cracks boursiers. Et que les gouvernements eux-mêmes s'auto-évaluent.
C'est les prophéties auto-réalisantes.
Et que,
si on a une baisse de notes,
ils sont tellement dans un délire de gestion pseudo-objective. Parce que c'est ça aussi ils visent à une pseudo-objectivité. Comme s'il y en avait une. Comme si la société était objective. Comme si eux-mêmes l'étaient. Et donc du coup, on se retrouve avec des en permanence des choses qui sont ultra stigmatisantes et qui font que quand on redescend à notre niveau et dans nos classes, les gamins à qui on expose la difficulté permanente de du savoir qu'ils sont à acquérir, qui est un savoir complexe pour beaucoup d'enfants, parce que c'est pas un savoir qui est répandu dans la société, qui est déjà particulier à l'école, et qui est un savoir de sélection sociale. Si en plus on y rajoute toutes ces grilles évaluatives, quelles qu'elles soient, internationales, nationales, locales, ou ce qu'on veut, c'est vraiment, c'est le pire de tout pour faire que, bah oui, chacun y voit son petit individu et arrive à faire son petit chemin individuel et faire que ça soit chacun pour soi. Je pense que c'est comme un objectif de mettre tout le monde dans son petit truc où chacun doit réussir à. Et ils arrivent à faire avec leur strate à eux, la nation, l'international version économique, l'État, et l'éducation, enfin, l'éducation nationale, doit être particulièrement mise, pareil, en évaluation et à savoir est-elle efficace et inefficace dans leurs termes à eux.
Et toujours efficace par rapport à la compétition internationale.
Ah bah bien sûr. Et par rapport à la
production. Il ne faut pas manquer de gagner.
À des formes de productivité.
Parce
aussi.
Que la France ne peut pas se contenter d'être dans une place moyenne, ni même médiane. Puis comme ça, bah, en habituant tous les enfants aux compétences dès le plus jeune âge, on les habituera au bilan de compétences que font les pôles emploi et les sectes de tout poil. Justement, t'as touché à un point que je pensais aborder, c'est le point des savoirs, justement, de la hiérarchie dans les savoirs aussi. Cette hiérarchie dans les savoirs, elle est assez caractéristique de l'école du tri social. Elle prouve... tous les toute la culture bourgeoise qui s'est imposée justement. Et si on voulait justement pour essayer de conclure sur ce sujet, parler d'éventuelles solutions, quelles solutions pour l'école, qu'est-ce que c'est qu'une éducation émancipatrice? Je pensais qu'il fallait parler un petit peu justement de ce que sont les savoirs qu'on enseigne et quels sont qu'est-ce que c'est qu'un savoir déjà? Qu'est-ce qui est un besoin? Qu'est-ce qui est émancipateur? Pourquoi aujourd'hui on apprend plus vraiment le latin, mais on apprend beaucoup de maths, énormément de maths, mais de manière très technique? Pourquoi ça, c'est un savoir qui aujourd'hui a du sens, contrairement à la plomberie, par exemple, qui a pourtant beaucoup plus d'intérêt?
On en manque, les plombiers.
Bah après, il y a des modes, parce que par exemple, à une époque, ce qu'on appelle le sport, éducation physique et sportive, c'était vraiment, ça faisait partie des sous-matières, et parce que, voilà, imagine, c'était un truc de... je sais pas quoi. Et c'est revenu, hein. Enfin, parce que quand même, je vous le dis, ce qu'on a à transmettre au collège, donc en fin de CM2, et donc ils ont leur livret personnel de compétences rempli, leurs évaluations nationales, et le diplôme comme quoi ils savent nager. Ah, ça me paraissait impensable il y a quelques années, ça, de vérifier quand même qu'ils savent nager pour passer en sixième. Donc il y a des modes. Donc actuellement, le sport, ça revient dans tous les trucs, c'est hyper.
C'est la compétition.
Il faut pratiquer.
C'est lié aussi à la place du corps dans nos sociétés. Le corps est vachement présent. Hein. Après, le corps formaté, hein. Le corps est
discipliné.
Le corps discipliné, formaté, est vachement présent. Mm-hmm. Celui qui est représenté dans les pubs, celui qui est représenté en général, et celui qui doit être. L'hygiène, on est dans une société très hygiéniste, donc il n'y a pas de raison que le corps y échappe, et donc que l'école en donne une représentation, c'est pas étonnant.
Je pense qu'il y avait une vraie volonté de Sarkozy aussi de remettre le sport comme matière importante à l'école, c'est... avec une augmentation des horaires, etc.
Débrouillez-vous. Non, moi je pense que pour revenir à sa question là, je pense qu'il faut plus voir que tous les savoirs. Alors entre guillemets, moi je pense qu'il faut bannir le mot savoir, parce que savoir, ça fait référence. À mon avis, il faut le poser à connaissance. Connaissance, ça dit savoir, c'est la connaissance en tant qu'elle implique dans le mode d'appropriation la transformation du sujet. Et la connaissance, c'est justement là où il y a indépendance par rapport au sujet. C'est-à-dire que ça n'a pas d'influence sur le sujet. Le sujet a toujours le même statut, la même identité, et qui changerait dans l'acquisition d'un savoir. Un savoir, c'est quelque chose qui te transforme. L'école, elle est faite pour véhiculer des connaissances qui sont finalement subalternes, qui sont des moyens au service d'autres fins. Ce qui a toujours été affirmé, l'école, l'instruction scolaire est toujours seconde par rapport à ce qu'on va éduquer comme personne. Donc par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus large, qui renvoie à l'inculcation de la discipline du corps, à une morale, à une idéologie, la connaissance, que ce soit des maths, que ce soit le latin, et pourquoi ça a changé au cours des siècles dans l'école. Pourquoi pendant longtemps l'école primaire c'était juste l'écriture, hein, il fallait savoir former des lettres, on passait des années et des années à former des lettres en majuscule, voilà. C'était toujours finalement je trouve pas le terme. La connaissance était toujours seconde par rapport à ce à quoi elle servait. C'est-à-dire l'exercice. Il fallait exercer quelqu'un par n'importe quel support, finalement. Après tout, on s'en fout. La preuve, c'est que, pourquoi on s'en fout, c'est que, je sais pas, mais moi, après le bac, j'ai oublié totalement tout ce que j'avais fait au lycée. Je me souvenais plus de rien. C'est oubli total. C'est parce que ça m'avait appris à, parler d'une certaine façon, à me comporter d'une certaine façon, à écrire, à penser, parce que penser, ce que tu penses, c'est forcément des technologies intellectuelles, oui, qui sont précises, qui te, si tu si tu sors de ces technologies qu'on t'apprend, qu'on t'a inculquées, bah, tu es un peu désemparé, quoi. Donc, tu te rabats sur ce qu'on t'a inculqué. C'est pour ça que parler de connaissances, c'est ni des savoirs ni des connaissances à l'école. Il faudrait trouver un autre terme qui est... Enfin, je sais pas, moi je reviens tout le temps à Foucault, vous emmerdez peut-être. Mais... Il utilisait le terme de discipline, qui renvoyait aussi bien au sens de la discipline du corps que la discipline de l'esprit. Et c'est vrai que le terme de discipline a aussi été utilisé depuis le 19e siècle, jusque encore maintenant, pour penser le cloisonnement, la segmentation, la fragmentation, la manière dont est institutionnalisé, c'est-à-dire penser les modes de certification, de validation, le statut, la hiérarchie des disciplines. Donc, à mon avis, c'est indissociable de l'étatisation des connaissances choisies, délimitées dans une société.
Mais c'est l'idée du socle commun de compétences. C'était l'idée que, oh là là, on leur en apprend beaucoup trop. Il vaut mieux revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'ils sachent juste lire, écrire, compter. Mais au moins ça, il faut vraiment qu'ils le sachent. Et ils n'iront pas au collège tant qu'ils ne le sauront pas. Je pense que quand même, actuellement, la tendance est à... on réduit plutôt... c'est pas la peine de leur...
Mais je pense que c'est plus que ça. C'est pas revenir à des fondamentaux, c'est que il y a vraiment un antagonisme fondamental que par exemple soulevait Foucambert sur qu'est-ce que ça veut dire que lire. Lui disait l'école elle apprend pas à lire, elle empêche les enfants de lire. Parce que lire, moi je trouve que c'est absolument vrai. Lire c'est il faut surtout se passer de méthodes et de manuels. Et il disait c'est Stengers qui disait imaginez-vous que on mette à l'école des nourrissons pour leur apprendre à marcher et à parler. Et il disait, on formerait 75% d'handicapés mentaux et physiques. Parce que si on voulait chercher des méthodes pour apprendre à un bébé à marcher, à le codifier, à définir une programmation, à cette idée qu'il faut commencer par le simple et le complexe, or on sait très bien que ce que nous on pense comme simple pour un enfant, c'est quelque chose d'horriblement compliqué qui n'a aucun sens, puisqu'il ne le voit pas. Lui, il perçoit d'emblée une totalité de signes, de signification, de sens, de sensations, d'affect. Donc c'est...
C'est aussi un des arguments, l'exemple que tu donnes des deux apprentissages les plus complexes, en fait, c'est savoir la marche et le langage. C'est un des exemples qui est donné aussi contre justement l'idée de l'évaluation, de la notation, etc. En disant, voilà, ces deux choses-là, en gros, tous les enfants normalement constitués y arrivent. Et derrière, il n'y a pas de... c'est important de lui mettre 6 sur 10 en déplacement, parce que comme ça, il sait qu'il faut qu'il progresse. Pas du tout. Et quand même, il marche. Donc voilà.
Mais ils vont y venir aux crèches. Vous croyez pas?
Au secours!
Je pense qu'ils sont capables de dire et de donner des normes sur la manière de marcher. Je pense pas qu'il y ait un arrêt dans la volonté de contrôle de l'individu. Et si on doit redescendre quand ils font la loi de prévention de la délinquance, c'est tellement délirant que ça provoque des manifs, il y a beaucoup de monde qui se mobilise dessus, machin. Ce qui n'empêche que la réalité, c'est ils arrivent à formuler des choses qui sont leur délire idéologique et à les calquer en donnant et en essayant de créer des outils toujours autour de comment détecter, comment savoir, comment contrôler, comment vérifier, en toute objectivité bien sûr, et donc avoir des outils pour faire que là c'est sur le côté délinquance. Donc forcément, il a piqué le choco BN de son copain. Il est forcément un futur délinquant, il a 2 ans et demi.
Donc on envoie son dossier à la mairie.
Un enfant a mis le pied de côté ou n'a pas fait de 4 pattes, il va forcément mal marcher. Et donc, ses apprentissages plus tard...
Tu dis ça parce que ton fils marche pas à 4 pattes. Il commence à s'inquiéter.
Non, pas du tout. Non, mais c'est vraiment... c'est catastrophique de mise en case, quoi. Et de... L'immense majorité des connaissances et apprentissages ne passent pas ni par l'école, pour bien détruire l'école au vrai sens du terme, pour te répondre, moi je pense que de toute façon, l'école en soi a toujours été un outil d'oppression, et que si un jour, quelconque, on doit voir émerger une école émancipatrice, c'est qu'elle ne sera plus le terme école.
Ah oui.
Donc voilà, c'est réglé. Mais ensuite, si on regarde simplement les... Alors, je veux bien me plier au terme discipline, mais si on regarde l'ensemble des apprentissages, de tout ce qu'on mène dans nos vies en général, mais que hein, du plus petit être qui va découvrir progressivement la lumière et va découvrir progressivement les sensations, à celui qui va découvrir progressivement la capacité de lire et l'intérêt de lire, que ça soit sur le net d'ailleurs aujourd'hui, parce que la majorité des gamins ils lisent plutôt en ligne que lire sur du version papier, ou que ça soit véritablement sous forme roman s'ils le veulent. Et puis après les interactions avec les autres, la volonté et la capacité qu'a ses pouvoirs en général économiques ou politiques à mettre en case en permanence et à créer ces nouveaux outils, qui sont pas vraiment nouveaux d'ailleurs, mais en tout cas à les renouveler et à faire que chaque personne se sente atomisée du plus jeune ou plus vieux, c'est quand même terrible quoi. Alors après c'est peut-être moins terrible que d'aller bosser à la mine, mais c'est pas sûr, c'est pas les mêmes types d'oppression, par exemple. C'est pas une oppression physique, c'est une oppression qui vient sur le psy. Et comme on est dans une société déjà atomisée, où l'individu se sent déjà relativement seul, et pas en tant que ni classe, ni nation, enfin, nation encore, ça se discute. Et ce terme-là, ils l'ont pas galvaudé, volontairement, ils veulent le garder. On sait jamais, il peut y avoir un conflit. Mais si, pour eux, je parle. Mais sinon, pour l'atomisation en général de l'individu, au lieu de se sentir que dans une classe sociale et non isolée, la majorité des gens se sentent isolés. Or, dans nos générations, je parle de gens qui ont à partir de zéro jusqu'à les... même les ça va jusqu'au quinquagénaire, voire sexagénaire. Alors, en termes de génération, ça représente deux, trois générations, mais la catastrophe, c'est que ils appliquent des outils où déjà les gens le sont, individualisés, et donc en appliquant des outils qui les individualisent encore plus, ils les renvoient dans les mal-être permanents qu'ils sont capables de traiter, puisqu'ils créent aussi les outils pour traiter les mal-être qu'eux-mêmes ont créés derrière, toutes les cellules, toutes les cellules particulières, pas forcément de psychologie, hein, ça peut être, il y en a de multiples, d'écoute, de blabla, et de faire que tes problématiques qui n'en sont pas vraiment, au final, c'est plus que ton... Dans le travail, les gens sont isolés, et donc, pour les enfants, c'est strictement valable.
Juste pour en revenir à ta question, en 3 secondes, sur les savoirs, quand les derniers programmes pour l'école sont sortis, il y a eu cette critique-là de dire qu'on dérivait aussi vers un apprentissage de... on renforçait l'apprentissage de, par exemple, des techniques opératoires, des choses comme ça, et on enlevait un peu le côté sens des choses. Parce que voilà, il faut qu'ils sachent poser une multiplication au CE1, ce qui n'a pas d'intérêt, à part le fait que du surtout coup, on ne parle pas du fond de l'affaire. Et voilà, et c'est sûr que l'idée, voilà, c'est on leur apprend des automatismes, mais surtout qu'ils comprennent pas, voilà, pourquoi, comment. Parce que comme disait très bien Serge, le but c'est quand même de fabriquer des moutons. Alors après, juste le petit bémol, c'est que si nous on est instit, c'est parce qu'on pense qu'on peut faire autre chose. Alors même si notre marge de manœuvre n'est pas énorme, enfin en tout cas voilà. Et il faut juste dire quand même qu'il y a des enfants pour qui.
Fais pas la tête, Serge. Tu
pour qui non, mais il y a des enfants pour qui venir à l'école malgré tout ça, c'est un bol d'air parce que c'est pas rose non plus à la maison. Voilà.
Ah non, mais puis même ça, enfin l'initial peut-être de. Pour toute personne qui se veut enseignante, enfin, j'en sais rien, je pense pas qu'il y ait de loi générale dans un corps de métier, qui reste un corps de métier où les gens le font encore par choix, majoritairement. Il y a certainement quelque chose.
Ils y restent par besoin.
Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que le salariat prime avant tout. Hein, on est d'abord des salariés avant d'être autre chose. Mais ce qui n'empêche que, bon, voilà, t'as des êtres humains en face de toi, alors, selon ta personnalité et la manière dont tu perçois les autres, l'autre en général hein, au sens avec un grand A, eh ben évidemment tu peux pas y rester indifférent, donc l'apprentissage en général non plus, et la manière d'arriver à les non pas les émanciper hein, mais faire que ça en fasse des individus qui aient la capacité de s'emparer des diverses disciplines qu'on leur impose, ça peut avoir une importance, mais ce qui n'empêche que bon voilà. Si on revient à l'initial quand même de ce qu'on disait, l'ensemble de ce qu'ils font n'est pas non plus, bien sûr, c'est pas une régression complète et délirante. C'est juste une question de cycle, comme le disait très bien Didier tout à l'heure. Et je pense simplement qu'on s'en prend pour quelques années et que c'est assez dur de l'envisager comme tel parce que voilà, c'est dur au sens où quand on combat et qu'on milite pour quelque chose de différent et quand on voit le mouvement inverse complet, c'est un peu hard de se le taper. Mais sinon, en soi, dans l'histoire, on peut pas dire que des gens comme Freinet et tous les gens de cette époque-là qui étaient instits, si on prend sur le versant profession et pas sur le versant élève, il y avait des gens hyper bien dans des systèmes ultra réac. Si on prend, il y a plein d'élèves qui ont détesté le système scolaire, j'espère qu'ils le détesteront pareil, comme ça, ça donnera plein de gens intéressants. Il y a plein de gens qui continuent à le détester, alors avec différentes manières pour de l'exprimer, et qui peuvent donner des gens intéressants, qui en donnent aussi parfois non, mais qui se révoltent aussi contre ça. Et donc je suis pas non plus persuadé, mais tout ce qu'on sait, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, pour nous et pour l'ensemble d'une profession où on n'est pas dans un milieu non plus révolutionnaire, donc la majorité de nos collègues le sont pas et le resteront à mon avis très longtemps pas. Donc le fait que ça recule de manière institutionnelle au niveau des idées, ça pose un souci simplement pour la propension de nos idées à toucher les autres. C'est tout, parce qu'on sera vraiment en porte-à-faux complet. C'est la seule problématique qui se pose, pour moi, hein, en tout cas. Puis sur le long terme, je parle.
Le fait de dire qu'un système répressif fabrique des révoltés ne veut pas dire que il va y avoir des révoltés, même si le système est répressif. Ça ne veut pas dire que du coup c'est bien de faire un système répressif.
Bien sûr que non, jamais.
Pourtant, c'est sympa.
Je dis ça parce que c'est aussi un discours qui est tenu en disant mais c'est bien comme ça, ils ont bien révolté contre l'école.
C'est pour dire que ça a toujours été vrai, mais qu'on a vécu ces quelques années un peu comme la suite des 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses pour les salariés aussi, c'était le bonheur, l'accession à la consommation, formidable, tout le monde était consommateur. Maintenant, on n'est plus des individus, on est des consommateurs. Et donc, voilà. Et pour l'école, il n'y a pas de raison que ce petit décalage vécu pour les 30 Glorieuses qui s'est fait dans l'école, même au moment où le système lui-même commençait à dire « Oula, salariés, vous rigolez, vous avez trop de droits ». Pour les enfants, ça s'est prolongé un peu parce qu'il y avait le bastion, que ça met plus de temps au niveau structurel. Et donc aujourd'hui, on subit exactement ce qu'ont subi les salariés.
Et puis pour les salariés, ils ont gamins, le chômage, subissent, c'était pratique.
Oui, ça, c'est bien sûr, pour le mode de gestion.
Ouais. Comme il nous reste très peu de temps et qu'au stage qu'on avait fait au début du mois, organisé par le collectif anti-hiérarchie et émancipation,
et l'ICEM.
Et l'ICEM, pardon, désolé.
Et là, une autre
on avait.
Ah, c'était une blague. Bon. Vas-y.
Non.
Et la Fédération Sud-Éducation aussi.
Oui, qui fait partie du collectif anti-hiérarchie.
Oui, Sud et CNT sont partis.
Voilà. Donc ça évite de les citer à chaque fois les deux.
Ouais.
Quand on dit collectif anti-hiérarchie, derrière, il y a Sud et la CNT.
Et des non-syndiqués.
Et beaucoup de non-syndiqués.
Majoritaire. Ah ouais. Dans ce stage, on a aussi parlé de bas élèves qu'on avait déjà évoqué ici quand on avait parlé de fichage et un peu tout ça. Et là, c'est une lutte qui est encore d'actualité. Donc Florence, tu nous en touches un petit mot.
Oui, voilà. Serge disait, oh là, on en prend pour quelques années. Du coup, bas élèves, c'est 35 ans. Donc c'est quelques années.
Attendez, je calcule mon âge.
Du coup, je me dis que si jamais il y a des parents d'élèves qui nous écoutent et qui ne savent pas, je dis ça, je reconnais moi-même, je l'ignorais, que sur Paris, tout enfant inscrit à l'école est automatiquement fiché donc dans le fichier bas élèves, et comme il est dans le fichier bas élèves, il est automatiquement basculé dans la base nationale de l'identifiant élève. Voilà.
C'est important d'être identifié.
C'est ça, là pour le coup ils le sont. Je rappelle qu'il est possible de faire jouer son droit d'opposition au fichage. Alors par contre, à Paris c'est très compliqué, parce que du coup, comme les deux systèmes de gestion, bas élèves qui est national et GEPI qui est parisien, sont complètement liés, si on le retire de bas élèves, du coup il est plus inscrit à l'école. Voilà, ceci
donc
dit, je pense...
Il est plus parisien.
Ça c'est pas forcément grave.
Il est expulsé. Non, mais du coup, hors de l'Île-de-France.
J'invite vraiment les parents d'élèves qui nous écoutent à aller sur le site du CNRBE. Vous tapez CNRBE dans n'importe quel moteur de recherche et vous tombez
sur le collectif national de résistance à bas élèves.
Voilà. Et vous avez toutes les indications sur comment utiliser son droit d'opposition, comment demander. Alors Didier me fait non avec la main.
Il manque justement les informations pour les Parisiens. J'ai essayé de contacter des gens du CNRBE justement et personne n'est au courant de ce qui se trame parce qu'en fait c'est un accord en douce entre le rectorat et la ville de Paris. Partout ailleurs globalement le fichier base élèves se met en place parce qu'il n'y avait pas d'autres systèmes informatisés de gestion des élèves qui s'inscrivent à la mairie. Alors qu'à Paris, il y a ce système GPI qui se met en place.
Non, c'est vieux.
Qui s'est mis en place de, il y a, je sais pas, plus de 20 ans.
Oh, bon, écoute, bien, oui, moi, j'ai souvenir de l'avoir été directrice il y a 13-14 ans à ouvrir GPI et à rentrer les noms des gamins.
Voilà. Donc ça, c'est un système très vieux. Et jusqu'à présent, les socialistes au Conseil de Paris avaient refusé l'application de base élève. Jusqu'à très récemment. Et je me suis aperçu que donc en janvier là de l'année 2010, ils ont changé d'avis puisque Colombe Brossel a dit que la bascule se ferait automatiquement de tous les enfants inscrits dans GPI sur base élève. Ça se ferait entre parenthèses de nuit, de manière automatique, clandestinement.
Donc c'est encore plus pervers parce que
dans le dos de tout le monde.
Les directeurs peuvent même, par rapport à d'autres villes où les directeurs peuvent dire bon bah moi je les saisis pas, là ils ont même pas la main. Je pense que du coup ça vaut vraiment le coup et quand même de faire jouer son droit d'opposition et d'aller secouer les puces de la mairie éventuellement. Enfin je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à Paris parce que comme dit Didier tout s'est fait en douce. Donc personne s'est inquiété, sauf que non seulement ça s'est fait en douce, mais c'est bien plus pervers qu'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site du collectif national de résistance à base élève, où j'espère il y aura bientôt des informations plus précises sur Paris. Voilà. Et on parlait du livret personnel de compétences. Il faut bien savoir que l'idée d'avoir ce fichier, ce numéro national, etc., c'est qu'après il y aura là-dedans rentrer les résultats aux évaluations et le CV du gamin, etc., et que tout ça, hop, ça passera. Et comme on le disait tout à l'heure, ça lui fera son petit livret d'ouvrier quand il sortira de l'école. Voilà.
Il n'y aura plus d'ouvriers à ce moment-là. En tout cas, en Europe.
Il en reste quand même pas mal.
Travailleurs immatériels.
Ah oui, mais ils seront dans le tertiaire.
Les ouvriers du tertiaire.